Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Jeans Podcast. Aujourd'hui, on va parler de handicap, plus ou moins visible. Sous fond de misérabilisme, nous avons programmé nos désirs pour que les personnes handicapées ne soient ni désirantes ni désirables. Elles sont hors compétition, bannies de la citoyenneté sexuelle. C'est très précisément ça le validisme, qui immerge tout le système patriarcal pensé pour et par les personnes capables sans handicap dites valides. Les personnes porteuses de handicap se voient imposer une organisation de leur environnement de vie inadapté. Avec 18% de la population française vivant avec un handicap, on ne peut plus se dire que ça n'arrive qu'aux autres et après moi le déluge. À la rentrée scolaire de septembre 2023, 23% des enfants handicapés n'ont pas eu accès à l'école. Non conformes à la norme, à la marge, les personnes en situation de handicap se trouvent souvent dans l'obligation de faire avec. Entre autres, le handicap invalide leur droit de désirer. Les personnes handicapées n'ont le droit qu'à la commisération. Alors que le handicap réinterroge les normes corporelles dans les enjeux de la sexualité, du désir et de ce que l'on attend des corps genrés. Le handicap annulerait la masculinité et surtout la virilité d'un homme hétérosexuel, même s'il n'a pas de problème érectile. Le handicap peut aussi déformer le corps féminin que l'on veut faire ressembler aux premières de couverture de magazines d'été. Il se trouve que l'islam considère le handicap comme faisant partie de la condition humaine. Il n'est donc ni signe d'élection, ni signe de malédiction, mais il doit être pris en charge par la société au nom de la solidarité. Dans la sourate 48, verset 17, il est dit « Nul grief ne sera fait à l'aveugle, pas plus qu'aux boiteux et aux malades ». En parlant d'aveuglement, le Coran aborde la thématique de la cécité, mais plutôt celle du cœur et de la foi que celle des yeux. Je cite « Car ceux qui deviennent réellement aveugles ne sont pas les yeux, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. » Sourate 22, verset 46. En islam, le mariage est un droit reconnu pour les personnes en situation de handicap. Les personnes handicapées ont le droit à l'amour et à la sexualité, et ce, quel que soit leur corps. Alors malgré les avancées récentes comme la déconjugalisation de la AAH, enfin, le validisme est partout. Et il est rendu d'autant plus visible par les militantes antiféministes et creep comme Charlotte Puiseux que j'avais interrogée dans Jeans, ou des influenceuses du monde arabe comme Zainab El Ekabi. On peut citer aussi Amou Bouakaz, un homme arabe aveugle de naissance, conseiller pour les problématiques de diversité et d'inclusion dans le 20e arrondissement de Paris. Il y a aussi Souhaed Razouani, qui est une multi-championne paralympique d'haltérophilie, qui est française d'origine tunisienne. Et puis sur Netflix, vous pouvez suivre des dating reality shows, des séries comme Special, Atypical, Down for Love ou Love on the Spectrum. Il faut aussi rappeler certains concepts avant de commencer pour enrichir un peu notre vocabulaire. Par exemple, le dévotisme, c'est quoi ? C'est l'attirance sexuelle des personnes valides envers les personnes handy. C'est un fétichisme. La psychophobie, c'est la discrimination à l'encontre des personnes dites neuroatypiques ou neurodivergentes. On parle aussi d'audisme, quand on qualifie des préjugés négatifs et d'une hostilité envers les personnes sourdes ou malentendantes, par exemple. On dit aussi d'une personne non autiste qu'elle est aliste. Voilà pour les mots du jour. Maintenant, écoutons les concernés. Les concernés du jour sont Hamid Alouache, Safir Boukhalfa et Bachir Keroumi. Hamid est référent diversité et inclusion. Il a dansé pendant plus de 20 ans dans le monde avant de devenir régisseur du ballet de l'Opéra de Paris. En 2016, une maladie l'a rendu paraplégique. Il est aujourd'hui en fauteuil roulant. Safir est consultante en diversité, équité et inclusion et vit à Berlin. Yael est également originaire d'Algérie et de France, queer, musulman-musulmane, non-binaire et a découvert récemment son autisme et TDAH. Bachir est un homme d'origine algérienne. Il arrive seul en France à l'âge de 16 ans pour suivre ses études. 2 ans plus tard, il perd la vue. Sa vie bascule et il décide de se battre. Aujourd'hui, il excelle dans tous les domaines. Il est ceinture noire 3e dan de judo. Il a accompli une thèse de doctorat au CNAM. Il est informaticien et il est consultant auprès de grands groupes internationaux. Merci donc à vous trois d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
Je t'en prie, comme je te le disais, c'était un honneur.
Merci à toi de m'inviter.
Hamid, tu as eu un parcours génial à l'Opéra de Paris. Tu as continué aussi à chorégraphier et à danser après ton diagnostic. Est-ce que tu peux nous raconter l'avant et l'après ?
Tout à fait. C'est une vraie question de cette danse qui m'a souvent rattrapé à des moments où je partais ailleurs. J'ai commencé tardivement, à l'âge de 14 ans, par le jazz. Donc, c'était difficile d'envisager une carrière professionnelle à l'époque, mais j'étais tellement motivé qu'au final, j'ai pu vraiment rattraper le retard que j'avais par rapport aux gens de mon âge en formation professionnelle et donc surtout avoir une carrière internationale avec un parcours à l'opéra dont on me parle beaucoup parce que l'opéra, ça fascine. Il faut savoir qu'il y a deux types de danseurs à l'Opéra de Paris. Il y a les danseurs du ballet qui sont en CDI. Et puis, il y a les danseurs des opéras, parce qu'il y a beaucoup d'opéras sur lesquels il y a des danseurs, qui sont beaucoup plus polyvalents, pluridisciplinaires, qui, eux, sont intermittents. Donc, moi, j'ai d'abord fait partie de ces danseurs au lyrique. Et donc, la danse m'a rattrapé. Donc, c'est une des fois où je me suis laissé rattraper. Voilà, à un moment où il y a une régisseuse du ballet qui partait en congé de maternité. Voilà, et qui m'a conseillé de postuler pour la remplacer à l'Opéra National de Paris. Donc, ça a été une expérience assez incroyable. Hein.
Oui, et donc, après cette expérience, en 2016, tu tombes malade, c'est ça ?
Ça a été très soudain. Donc, j'ai une paraplégie liée à une inflammation de la moelle épinière qu'on n'a jamais expliquée. Pas de diagnostic, donc pas de pronostic. Donc, pas de statistiques. Voilà. Ce qui m'était arrivé en une semaine, soudainement, ça disparaîtrait peut-être en une semaine, soudainement aussi. Je récupère très lentement parce que j'ai eu un an de paralysie complète. Au bout d'un an, j'ai commencé à récupérer. Bon, j'ai vite compris que ça mettrait pas une semaine, puisqu'aujourd'hui, ça fait 6 ans que je récupère. Parce que souvent, on voit la partie de l'iceberg que représente le fauteuil roulant. Voilà, et la paralysie, mais après, on ne pense pas à tous les troubles, les handicaps invisibles de vessie qui ne marche plus, de transit qui ne marche plus, de sphincter qui ne marche plus, de zizi qui ne marche plus, puisque si tu veux, on en reparlera plus tard. Mais je fais une différence entre le pipi et le zizi qui n'ont pas la même fonction. Et donc, là, les gens, pensant bien faire, n'hésite pas, au bout de 2 mois de paralysie, à t'envoyer des vidéos de danseurs en fauteuil roulant, en espérant que ça va t'inspirer. Là où moi, je détestais ces moments-là, parce qu'en plus, quand il y en a une nouvelle qui sort, ils sont 25 à te l'envoyer. Et moi, je regardais ça un peu comme des bêtes de cirque. Surtout qu'il y a 7 ans, on voyait des choses très performantes, pas du tout artistiques, pas du tout poétiques. Et moi, je suis plus de cette trempe-là, on va dire. J'avais déjà fait beaucoup d'activités parasportives qui n'avaient rien à voir avec la danse. Et donc, du coup, j'étais plutôt en pleine forme. Et j'ai une amie qui danseuse de ma génération qui me dit qu'elle va assister à un chorégraphe qui s'appelle Akram Khan, un chorégraphe contemporain anglais, indien, mais basé en Angleterre, qui va monter un très gros projet à Paris. Et donc, du coup, il me proposait d'en faire partie en fauteuil. Et donc, du coup, moi, j'admirais tellement ce chorégraphe que la question du handicap s'est plus posée et que j'y serais allé en rampant de toute façon. Donc, j'ai foncé et ça a été une expérience extraordinaire. À plein d'égards, parce que déjà, comme tu peux imaginer, je réalisais que le meilleur de mes émotions de danseur appartenait pas forcément qu'au passé. Et donc, du coup, je me suis dit que, même si ma carrière était derrière moi, même si mes ambitions de danseur étaient derrière moi, j'avais le droit de rêver à des expériences nouvelles et très fortes. L'année d'après, j'ai fait la clôture des Paralympiques de Tokyo, toujours en mixité handi valide. Mais ça compte parce que c'est encore plus de richesse quand tu mélanges des handis, des pas handis, des jeunes, des moins jeunes, des pros, des amateurs. Vraiment, il y a toujours quelque chose qui va faire que même moi, dans les ateliers de sensibilisation au handicap que je fais avec des ateliers de danse aveugle, ça m'intéresse d'avoir dans mon atelier une danseuse étoile et une habilleuse de la compagnie et de voir comment elles vont réagir sans se regarder les unes les autres parce qu'elles ont des masques et que c'est le but de mon expérience, comment elles vont réagir à la même consigne.
Est-ce que tu dirais que la danse te permet de reconnecter avec tes multiples identités ?
S'il y a une chose que je regrette dans ma vie, c'est quand j'ai arrêté de danser pour faire de la prod, d'avoir eu la prétention de penser que j'allais me pouvoir passer de danse complètement du jour au lendemain pendant des années. J'ai eu cette prétention d'imaginer que quelque chose qui me nourrissait depuis toujours physiquement, émotionnellement, économiquement, voilà, ça me nourrissait dans tous les sens du terme. Sauf que le jour où j'ai redansé en fauteuil, bah, j'ai compris que j'étais passé à côté d'un truc énorme qu'aurait pu me ressourcer. Mais c'est seulement, entre guillemets, grâce à cette épreuve que j'ai pu renouer avec la danse et surtout développer un programme où aujourd'hui, j'aligne toutes mes casquettes de danseur, de chorégraphe, de coach en développement personnel, puisque ça fait partie des reconversions que j'ai faites après la maladie, de conférencier et de conférencier qui parle du handicap, mais aussi de toutes les minorités à l'intersection desquelles je vis. Au début, je me disais, il me faudrait deux Instagram. Tu vois, vraiment le truc du mec qui est encore en train de dire, faut pas mélanger. Et puis en fait, je me suis dit, mais quoi que je fasse, c'est dans la diversité. C'est pour l'inclusion. Donc, il y aura un seul Instagram, que je fasse du sport, du parasport, de la danse, de la paradanse, des conférences, du coaching. Il y aura un seul Instagram qui est représentatif de tout ce que j'essaie d'incarner au quotidien. De plus en plus, je ne suis qu'un seul. Tu vois, c'est pas mes identités parce que j'en ai fait les frais. Jouer tel rôle quand je suis en famille, jouer tel rôle quand je suis au travail, et puis jouer tel rôle quand je suis avec mes amis, et puis voilà. Et pareil dans ma vie privée, et pareil dans ma vie sexuelle, parce que dans la vie sexuelle, on peut en parler, mais on joue des rôles aussi. Et donc, à quel point on joue un rôle ? On joue, déjà, ça veut dire que ça nous amuse, le jeu, mais plus on joue, plus on est dans quelque chose qui est loin de nous. Mais quand on joue la comédie en tant que homosexuel arabe parce qu'on est dans une famille à Mantes-la-Jolie avec des frères qui seraient prêts à nous égorger s'ils le savaient, on joue pas du tout en s'amusant. Moi, la seule remarque dont je me méfie un peu, c'est par exemple sur les réseaux. J'ai plusieurs photos. Il y a forcément une photo où je suis en fauteuil, donc c'est très clair. Mais parfois, au bout d'un moment de la discussion, je me demande si la personne a bien regardé toutes mes photos. Et donc, je pose la question. Est-ce que tu as remarqué que j'étais en fauteuil ? Et souvent, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais ça ne me dérange pas. » Bien au contraire. Warning.
Alors, le validisme, ça reste un angle mort du féminisme. Les personnes à mobilité réduite, qui en général ont un handicap visible, font face à une accessibilité quasi inexistante et sont dévalidées, si je puis dire, par les personnes valides. Les corps d'hommes handicapés sont d'ailleurs perçus comme dévirilisés, démasculinisés, impuissants et asexués. Comment on arrive, selon toi, à reconnecter avec son corps et à fortiori sa sexualité quand on est en situation de handicap ?
C'est des sujets qui sont extrêmement personnels. Si on parle de vie sexuelle d'un handicapé, déjà il va y en avoir 1000, mais il y en aura peut-être même 2000 parce que avant d'être handicapé, il avait une sexualité de valide. Et une sexualité de valide, c'est quoi ? C'est aussi pas une qui ressemble à l'autre. Donc à partir du moment où quand t'es valide, t'as déjà 1000 possibilités de vivre ta sexualité, évidemment que quand tu vas devenir handicapé, ça va se multiplier, s'exacerber. Mais un aveugle, c'est une personne en situation de handicap qui a une sexualité qui lui appartient. Un mec en fauteuil roulant, encore une fois, il y a ce qu'on voit et il peut y avoir 1000 choses à l'intérieur et pour être précis, 1000 choses à l'intérieur de son slip. Il y a des gens qui sont complètement paralysés avec zéro sensibilité, zéro possible érection, donc zéro orgasme et zéro éjaculation. Après, tu as des gens qui vont récupérer la sensibilité, mais basta. Des gens qui vont récupérer les érections. Moi, je suis passé par toutes les étapes. Donc, pour tout te dire, pendant 9 mois, zéro sensibilité, zéro érection, zéro orgasme et éjaculation. Après, j'ai commencé à récupérer, donc tu commences à récupérer de la sensibilité, tu commences à récupérer des érections intempestives, puis des érections plus ou moins volontaires. En fait, ton rapport au corps, puisque tu ne parles pas encore de sexualité, il passe par des étapes extrêmement difficiles. Tous les paraplégiques complets sont dans l'incapacité de faire caca tout seul et pipi tout seul. Donc, caca tout seul, ça veut dire une personne qui, tous les matins à l'hôpital, va te mettre sur ton lit. Enfin, tu vas rester sur ton lit, elle va te mettre sur le côté, elle va faire ce qu'on appelle une exonération, c'est-à-dire qu'elle va te libérer de ce que contient ton ampoule rectale, on l'appelle. Ensuite, 8 fois par jour, on va devoir te sonder, donc te mettre une sonde dans l'urètre pour aller dans la vessie et donc vider ta vessie d'à peu près 300-400 millilitres d'urine à toutes les 4 heures. Voilà. Dans les premiers mois, voire la première année, ton sexe et ton anus ne vont servir qu'à ça. Donc déjà, accepter l'intrusion d'un personnel. Donc, il y a tout un moment où la sexualité, le désir de sexualité n'existe plus. Et il y a seulement quand tu vas trouver de la stabilité dans cette autonomie, plus de la vitalité, plus te rééquilibrer psychiquement, que là, il va commencer à y avoir de la place à nouveau au plaisir qu'on te touche, au plaisir qu'on te regarde, au plaisir de te recoiffer, de quitter ton pyjama, de mettre du parfum, du gel dans les cheveux, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a des gens qui font un tel effort pour rendre la chose possible qu'après, ils tombent dans l'excès complètement inverse. C'est-à-dire que moi, j'accompagne des personnes en situation de handicap en fauteuil dans des séjours sport à sensation. Donc, c'est des gens qui sont sortis depuis quelques mois de l'hôpital et donc, du coup, bah, qui partagent une chambre à 2 à 3 et qui se baladent à OLP sur leur fauteuil roulant, voilà, qui ont complètement perdu toute mesure de pudeur, d'intimité, de dignité, de où ça commence, où ça s'arrête.
Alors pour beaucoup de personnes en situation de handicap, on retrouve cette notion de transformer le handicap en force, de contrer l'adversité imposée par le cours de la vie en quelque chose de puissant, par une forme de résilience. Généralement, ça donne aussi beaucoup de discours réducteurs de la part des personnes valides qui trouvent ça absolument fabuleux, formidable. C'est ce qu'on appelle le « inspiration porn ». C'est-à-dire que toute activité ordinaire d'une personne handicapée est racontée comme quelque chose d'absolument extraordinaire parce que c'est une personne handicapée qui l'a faite, quoi. Du coup, comment faut-il se comporter en tant que personne valide face aux personnes en situation de handicap ?
Moi, la question de l'inspiration, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Parce que moi, quand je commence à pitcher ce qui m'est arrivé, au bout d'une minute, silence, qu'on soit dans un bar, une conférence, enfin, il y a un silence de mort parce que tout le monde hallucine sur rien que le début de mon histoire. Donc, si j'avais voulu faire des conférences inspirantes, j'aurais vraiment fait fortune là-dedans. Mais je me serais ennuyé rapidement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, au-delà d'être inspirant, de comprendre ce qui s'est passé chez moi, éventuellement comprendre ce qui peut se passer chez les autres et donc du coup avoir un discours qui soit autant inspirationnel que pédagogique et surtout qui impacte les gens, soit dans leur regard sur le handicap, soit dans les pistes qu'on peut avoir pour être plus à l'aise avec le handicap. Mais encore une fois, c'est valable avec toutes les minorités dont je parle.
Ah oui, t'as déjà entendu des remarques homophobes ou racistes de la part des personnes handicapées ?
Bien sûr, ouais. Bah, à l'hôpital, enfin, je veux dire, c'est la cour d'école. On me disait rien à moi directement parce que j'ai 50 piges et qu'on me laisse tranquille. Mais on me le faisait savoir. J'avais des alliés qui m'en parlaient dans l'hôpital. Hein, de un tel, fais attention, il a un peu de mal avec les gays. Voilà. Parce que, évidemment, quand t'es paraplégique, le premier truc qu'on cherche à savoir sur toi, c'est est-ce que tu bandes. Et donc, les patients se scindent en 2 groupes. Ceux qui bandent et ceux qui bandent pas. Et c'est tellement important pour tout le monde. Et t'as des gens qui préféraient récupérer leur érection que marcher. Enfin, je veux dire, c'est dans une cour d'école, tu vas le retrouver à l'hôpital, exacerbé, parce qu'il y a encore plus de diversité à l'hôpital. Tu vois, dans une cour d'école, tu n'as pas beaucoup de diversité sociale, voire culturelle. Alors qu'à l'hôpital, ça fédère tout le monde. Hein. La paraplégie, ça concerne tout le monde. Voilà. Et tout le monde veut aller dans le temple des blessés de la moelle épinière, qui est l'hôpital de Garches. Donc, du coup, t'as énormément de gens qui se retrouvent là-bas. Du réfugié sans papier qui s'est fracassé les cervicales en faisant le mur du foyer, qui va être critiqué, ce réfugié qui est pris en charge par la Sécurité sociale française, par un mec qui a les mêmes symptômes, qui a fait carrière dans la finance, qui aura les moyens de dépenser une fortune dans sa santé, mais qui va vite déchanter en réalisant que à cet endroit-là, la carte bleue, ça sert plus à rien.
Les personnes porteuses de handicap sont des personnes, hein, et elles ont des personnalités. Ça veut dire qu'elles peuvent être drôles, sarcastiques, positives, chiantes, heureuses, épanouies sexuellement, qui elles ne sont pas les récipiendaires de toute l'horreur du monde. Hamid, est-ce que toi, tu trouves que ta vie est fun ?
Elle est fun à 90%. Et parfois, pour faire des choses fun, je vais devoir faire un truc pas fun du tout. Voilà, mais je veux dire, l'amour n'arrive jamais qu'avec ses camions de roses. Ma vie est fun et ça n'empêche pas que quand moi je prends un taxi pour aller voir le spectacle que j'attends depuis 6 mois et que je sais que je vais surkiffer ce moment et qu'au moment où je descends du taxi, t'as le chauffeur qui me tape sur l'épaule en me disant « courage, courage ». Il me souhaite du courage pour ma vie de merde.
Alors toi, Saphir, pour parler directement du vif du sujet, comment tu ressens l'intersection de ton identité neuroatypique ou neurodiverse ou neurodivergente avec le fait d'être non-binaire, d'être queer, d'être d'origine algérienne, d'être musulman-musulmane ? Comment tu fais pour allier tout ça ?
En toute honnêteté, ça dépend un peu des jours. Donc déjà, moi, en général, j'utilise neurodiverse plutôt que neuroatypique ou neurodivergent. Ça dépend vraiment des jours parce que, en général, j'ai l'impression que ça fait partie vraiment de moi et que c'est quelque chose qui me rend une personne très forte. Donc, c'est des intersections qui créent en moi vraiment un sentiment de capacité de résilience, de résistance qui est incroyable. Et en même temps, c'est assez intéressant de me rendre compte que, par exemple, si je vais dans l'intersection entre mon autisme et mon genre, moi, je me suis senti non-binaire. Je sais que je suis non-binaire depuis déjà quelques temps. Quand j'étais enfant, déjà, je pensais à mon genre en dehors des normes. Mais quand j'ai découvert et quand j'ai appris que j'étais autiste, j'ai commencé à lire beaucoup de choses sur le fait qu'en fait, il y a beaucoup de personnes au sein de la communauté qui aussi ne ressentent pas leur genre comme des personnes neurotypiques. Donc, c'est un truc qui est assez commun, en fait, quand on est sur le spectre autistique. Et c'est exactement comme ça que je le ressens, moi, en tant que personne à genre. C'est assez intéressant parce que depuis que je suis enfant, l'islam qu'on m'apprend, l'islam que j'ai appris de mes parents, il est très tolérant. C'est un islam qui est très tolérant. C'est un islam qui a beaucoup de règles dites positives. Et une chose que j'entendais souvent quand j'étais enfant, c'était que une personne qui est dite handicapée, donc qui a un handicap, qu'il soit moteur ou autre, automatiquement ira au paradis parce que a commencé sa vie avec plus de difficultés. Et donc, c'est assez intéressant parce que moi, je ne me considérais pas nécessairement comme une personne handicapée pendant très longtemps parce que je ne comprenais pas, en fait, pourquoi j'avais autant de difficultés avec le monde, pourquoi j'avais autant de difficultés avec le son, avec la lumière, avec les interactions sociales, tout ce qui fait l'autisme, en fait. Et en grandissant, du coup, et en arrivant à comprendre cette identité autistique et avec CDAH, j'ai réalisé que, oui, en fait, je suis une personne handicapée et c'est un handicap qui est beaucoup moins visible que d'autres personnes, mais c'est vraiment, en effet, un handicap. Donc il y a une partie de moi qui me dit, ok, on m'a enseigné qu'une personne handicapée irait de fait au paradis parce que X, Y, Z. Mais d'un autre côté, il y a mon identité queer qui entre en compte, mon identité de genre aussi, et où on m'a répété avec beaucoup de violence plusieurs fois que ben, j'allais aller en enfer automatiquement parce que être homosexuel n'est pas un problème, mais être homosexuel et d'agir dessus, du coup, ben ça constitue un péché. Et en fait, c'est intéressant parce que bon, moi, j'ai fait la paix sur le côté d'être une personne pansexuelle et d'être une personne musulmane, parce qu'en fait, en lisant et en relisant le Coran, en lisant tous les textes religieux, moi, mon interprétation, elle est telle qu'en fait, l'homosexualité n'est pas du tout condamnée. Ce qui est condamné, c'est la barbarie et le viol. Quant au fait d'être racisé, par exemple, et autiste et queer aussi, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que pour moi, comme c'est mon identité, c'est ce que je vis au quotidien, ça paraît tout à fait normal, ça coule de source. Et en revanche, pour beaucoup de personnes, toutes ces choses sont un peu mutuellement exclusives. Donc, tu es une personne autiste, ça je peux le comprendre. Ok, tu es une personne algérienne, ça je peux le comprendre aussi. Tu es une personne queer, ça je peux le comprendre. Tu es non-binaire, tu es musulmane, tu es ci, ça, 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 ça. Mais de créer ou de voir tout ça en même temps dans une identité, dans une personne, ça devient assez compliqué pour la plupart des gens et pour la société en général, que ce soit société française ou société allemande dans laquelle j'évolue un peu plus dans ces dernières années, ça crée beaucoup de complexité et beaucoup de violence aussi, en fait. Il faut aussi en parler, je pense. Beaucoup de violence, je me demanderai toujours quand quelque chose m'arrive, quand une microagression m'arrive, elle vient de quel côté, en fait. Est-ce que c'est mon autisme qui est pris à partie? Est-ce que c'est mon appartenance à l'islam? Est-ce que c'est le fait d'être une personne algérienne? Est-ce que c'est si ça? Ou est-ce que c'est tout en même temps? Et en général, la réponse, c'est vraiment, ouais, c'est tout en même temps.
Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à un jour en conférence, je disais, actually, it's not that hard to be gay. The heteropatriarchal word makes it hard to be gay. Donc en fait, c'est vraiment, toi, tu es complètement à l'aise avec qui tu es et tu le comprends très bien. C'est juste que c'est les autres, c'est le monde extérieur qui malmène cette compréhension de ton identité.
Mais c'est exactement ça. Et en fait, quand on fait la comparaison, même si les comparaisons ne sont pas toujours bienvenues, quand on fait la comparaison avec l'autisme et le TDAH, pour moi, mon cerveau, c'est le cerveau le plus logique du monde. Donc dans ma tête, tout va très bien et tout est très logique et je comprends mes réactions, je comprends vraiment toute la psychologie derrière mon cerveau à moi. Et en fait, comme tu dis, c'est vraiment la société qui te fait penser, mais en fait, tu es différent, ta manière de fonctionner n'est pas OK, et ta manière de fonctionner, ben, ouais, elle te rend vraiment pas valide, quoi. Quand en fait, du coup, je réalise ça et que je mets en parallèle, du coup, mon identité autiste, et je me rends vraiment compte rapidement que la plupart des gens autour de moi, en fait, essaient juste de comprendre ce qui se passe, entre guillemets, avec mon identité, et alors que pour moi, c'est pas du tout un problème. Et encore une fois, comme je disais, moi, dans ma tête, tout va bien, et j'ai pas du tout de difficulté à lier mon islam, à lier ma queerness, à lier mon autisme, à lier le fait que je sois une personne algérienne. Pour moi, tout coule de source. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on te met aussi très rapidement un discours qui est assez pesant et assez compliqué et assez difficile, alors qu'en fait, bah moi, je vis ma vie comme autant haut du mieux que je peux, en fait.
Alors oui, justement, il y a aussi un terme assez intéressant qui est en train d'émerger à propos du genre, c'est l'identité neurogenre. C'est une identité de genre qui serait liée au neurotype ou à la santé mentale d'une personne. Certaines personnes queer qui sont dans le spectre autistique se revendiquent autigender, autigenre. Est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que ton identité de genre, pour toi, et ta neurodiversité s'interconnectent?
Bah complètement, et en même temps, comment savoir? Donc c'est super intéressant parce que c'est vraiment exactement ce dont je parlais en commençant l'interview, de savoir. Donc moi, je sais que je suis non-binaire depuis quelque temps. J'ai grandi en passant au début que ben, je ne comprenais pas vraiment les normes de ce qu'était être un homme ou un garçon à l'époque. Et en grandissant très rapidement, j'ai réalisé que ben, je ne m'identifiais ni au féminin ni au masculin. Je me ressens très à genre. Et en fait, cette identité neuroqueer, elle reflète exactement ça. Et je me souviens avoir pensé quand j'ai eu mes diagnostics, ah mais en fait, est-ce que je suis vraiment une personne non-binaire ou est-ce que c'était juste mon autisme? Vraiment, devenant de plus en plus confortable dans ma situation, je me rends compte que bah, si, oui, je suis non-binaire et qu'en fait, que ça fasse partie de mon autisme, que ce soit à cause, entre guillemets, de mon autisme, ben, ça n'a pas vraiment d'impact sur la conséquence de la chose. Ça vient vraiment d'une partie de moi qui réfute un petit peu cette conception du genre et qui n'arrive pas vraiment à la comprendre. Et ça vient aussi d'un sentiment vraiment profond ancré en moi où quand je m'imagine, quand je ferme mes yeux ou quand je me vois dans un miroir, je ne vois ni un homme ni une femme. Je vois vraiment juste moi en tant que personne et moi sans genre vraiment. Et c'est intéressant parce qu'on parle souvent de la notion de l'identité de genre, l'expression de genre et le sexe aux sciences biologiques du terme. Et moi, mon expression de genre, elle est très codée masculine, pas nécessairement par choix, mais vraiment, et là, je fais l'intersection avec mon autisme et mon TDAH, c'est en fait comme un costume. M'habiller pour moi avec mon autisme, c'est comme un costume. Comme j'ai beaucoup de sensibilité sensorielle, en fait, je peux pas me permettre de porter les mêmes vêtements que la plupart des gens. Donc, je vais porter des vêtements qui sont un peu plus doux sur ma peau, qui n'ont pas d'étiquette, qui n'ont pas ci, ça, et ça réduit vraiment le champ des possibles. Donc, en fait, j'ai de temps en temps une expression de genre qui est un peu plus féminine, mais si je mets par exemple un crop top, un body, ils ont tendance à être très très près du corps. Et ça, c'est quelque chose que ma sensibilité sensorielle ne tolère pas. Automatiquement, je vais porter des choses qui sont un petit peu plus larges, je vais porter des choses qui sont un petit peu plus soft, et ça, dans l'idée de la mode en général, ben, ça tombe dans le genre masculin.
Selon toi, quels sont les plus grands malentendus ou stéréotypes qui concernent la neurodiversité que tu aimerais faire disparaître ?
Bah en fait, il y en a tellement, le fait que on envisage l'autisme toujours de la même manière, on envisage le TDA toujours de la même manière. Je sais pas si tu te souviens quand on était plus jeune et qu'on voyait à la télé une personne qui était dite hyperactive, je mets des guillemets pour les personnes qui écoutent, ou une personne autiste, c'était toujours un petit garçon blanc. De bonne famille, visiblement hétérosexuel probablement, qui donc avait cette tare et cette complexité qui faisait que les parents essayaient de le guérir, de le soigner et de faire toutes ces choses. Alors qu'en fait, ben, il n'y a rien à soigner. Donc le plus gros mensonge vraiment, la plus grosse propagande que j'espère être capable de changer à long terme, c'est que bah en fait il n'y a rien à changer. Donc mon cerveau n'est pas mal fonctionnel, mon cerveau n'est pas différent dans le sens amoindri par rapport à autrui. Il est juste construit d'une manière tout à fait différente et c'est tout à fait ok. Comme je disais un peu plus tôt, j'avais l'impression que la vie, entre guillemets, n'était pas faite pour moi, que tout était beaucoup trop difficile. Donc, je me disais, mais c'est pas possible de... Comment les gens, ils font pour ne pas être fatigués tout le temps? Comment les gens, ils font pour communiquer aussi simplement? Comment les gens, ils font pour X et Y? Et en fait, d'avoir compris mon autisme m'a fait me rendre compte, oui, en fait, j'évolue dans un monde qui n'est pas fait pour les personnes comme moi. Donc, on parle d'autisme, si on parle de statistiques, globalement, il devrait y avoir à peu près 1% de la population mondiale qui est autiste. Donc, ça ajoute à ça le fait que moi, je suis une personne avec autisme, mais aussi avec TDAH. Donc, au sein de la communauté autiste, il va y avoir peut-être 50% des personnes qui ont aussi du TDAH. Et j'ai un troisième truc qui était comment ma différence était justifiée quand j'étais enfant, c'était ce haut potentiel intellectuel. Et je mets encore une fois des guillemets parce que qu'est-ce que ça veut dire haut potentiel intellectuel, comment on le décide. Mais en gros, du coup, ce type de cerveau que j'ai représente un pourcentage tout petit de la population. Mais ça ne veut pas dire que je dois être en marge de la population. Et quand je dis je, que nous, des personnes neurodiverses, doivent être en marge de la société. Parce que si moi, mes intersections au sein de la neurodiversité sont telles, bah en fait, il y a aussi beaucoup de personnes neurodiverses de plein de manières. Il y a des personnes qui vont avoir que du TDAH, il y a des personnes qui vont avoir qui vont être schizophrènes peut-être, il y a des personnes qui vont avoir troubles de l'identité dissociative. Il y a beaucoup de possibilités, en fait. Il y a beaucoup de choses qui font que il n'y a pas vraiment de normalité au sein de nos cerveaux. Donc d'essayer de comprendre à terme que chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses, et de reconnaître aussi à quel point certaines neurodiversités peuvent être vraiment handicapantes.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui parlent de manière presque condescendante de l'autisme comme un super pouvoir.
Complètement. Et moi, je vais partager quelque chose qui m'est arrivé en particulier et qui, je pense, est arrivé à beaucoup de personnes dans mon cas. Quand, euh, quand j'ai eu toutes ces conversations avec mon psychiatre. Donc moi, je soupçonnais pas personnellement être autiste. Je pensais avoir un TDAH et du coup, j'ai pris un rendez-vous avec un psychiatre. J'avais fait une liste de toutes les choses qui m'avaient interpellé. Et le psychiatre me dit « Ah, ok, moi j'aimerais bien vous tester pour l'autisme. De ce que vous me dites là tout de suite, ça aurait beaucoup de sens. » Je dis « Ok. » Et en fait, même un professionnel qui est spécialisé dans l'autisme m'a demandé à un moment, mais du coup, est-ce que vous avez quelque chose que vous faites mieux que les autres? Alors que c'est quelque chose, comme on dit, en fait, il y a beaucoup de personnes autistes, la plupart des personnes autistes sont très normales, pas besoin d'avoir un QI de 160, pas besoin d'avoir un QI de 50, enfin, on est très normaux. Quand on parle d'une personne autiste, par exemple, on a toujours l'été de l'autisme savant ou de l'autisme qui ne sait rien, entre guillemets, du l'autiste, pardon, qui est non-verbal. Et évidemment, toutes les réalités au sein du spectre autistique existent. Il y a des personnes qui ont un QI de 160, il y a des personnes qui ont un QI de 60 ou de 70, mais en fait, pas plus ou pas moins que dans les communautés neurotypiques.
Tu travailles beaucoup en tant qu'expert-experte en diversité et inclusion en entreprise. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux managers qui se retrouveraient face à des personnes qui, comme toi, combine une intersectionnalité d'identité potentiellement discriminée en entreprise? Comment tu penses qu'ils doivent se comporter? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour améliorer le quotidien de personnes qui, en particulier, sont dans le spectre autistique?
En fait, moi, dans ma pratique, dans mon travail, je parle beaucoup d'équité. Il y a autant d'autisme que de personnes autistes. Moi, mon autisme, il se traduit beaucoup par des sensibilités et sensitivités sensorielles. Donc ça, c'est quelque chose que les managers, ils ont aucun problème à comprendre. Ah, ok. Donc, tu as besoin d'un casque qui va réduire le son. Ok, ça, on peut te le donner. Ah, tu as besoin de lunettes teintées pour éviter que les contrastes soient trop forts et qu'ils te donnent mal à la tête. Ok, ça, on peut le faire. En revanche, quelque chose que les entreprises ont du mal à comprendre, c'est la notion et le côté social de l'autisme. Donc, par exemple, on utilise souvent l'expression « lire entre les lignes ». Moi, en tant que personne autiste, il y a des personnes autistes qui vont être capables de le faire. Moi, en tant que personne autiste, je suis incapable de le faire. Pour moi, entre les lignes, il n'y a rien. Il n'y a que du blanc. Donc, déjà, l'expression n'a pas beaucoup de sens. Et moi, j'ai une manière de penser qui est très littérale. Donc, quand on me dit « lire entre les lignes », je visualise des lignes. Et je me dis « bah, il n'y a rien entre ça ». Parce que moi, si on me met un email de 55 lignes avec que des sous-entendus, je ressors de la lecture la personne la plus confuse au monde. Et j'entre dans ce qu'on appelle la dysfonction exécutive. Donc je freeze, je me gèle et je peux plus rien faire de la journée. Mon cerveau surchauffe et arrête de fonctionner. Essayez d'être le plus direct possible. Comprendre aussi que parfois on peut-être manquer de tact. Comme moi j'ai du mal à comprendre le côté social des interactions et encore une fois, toutes les choses invisibles d'une interaction entre humains, ben du coup peut-être que je vais dire quelque chose qui, pour moi, avait la meilleure intention du monde, mais où finalement, du coup, c'est assez mal reçu et on va me dire, oui, mais en fait, tu peux pas dire ça. Pareil, mon TDA, par exemple, pour moi, c'est particulier parce que je visualise souvent mon autisme comme une force dans mon cerveau et mon TDA comme une autre force dans mon cerveau. Et les deux sont un peu en opposition parfois, mais aussi souvent assez complémentaires. Et par exemple, avec mon TDA, des fois, j'ai donc ce qu'on appelle la dysfonction exécutive, mais qui va être rattrapée, entre guillemets, très vite parce que je vais avoir une phase d'hyperconcentration. Et dans ma phase d'hyperconcentration de 3 heures, je vais être capable de faire le travail de 2 semaines. Et comprendre, en fait, comment les personnes fonctionnent du point de vue du manager, essayer de comprendre que, ah, ben, des fois, si j'ai une personne autiste dans mon équipe, cette personne va avoir l'air de ne rien faire, entre guillemets, pendant quelques heures, alors qu'en fait, elle essaie juste de s'autoréguler, elle essaie juste de vivre sa journée au mieux possible, mais qu'en vrai, le travail sera fait. Donc, éviter de se concentrer sur comment le travail sera fait, mais peut-être plus sur le résultat.
Oui, pour finir, il y a aussi une condescendance très forte des personnes valides envers les personnes handicapées ou neurodiverses, sur l'amour et la sexualité, bien sûr. Sauf que, tu le diras mieux que moi, l'orientation affective, romantique et l'orientation sexuelle, ben ça existe aussi pour les personnes autistes, non ?
Bah complètement. Pour moi, il y a une distinction un peu à faire entre peut-être sexualité et romance ici, où La question de sexualité est super intéressante quand on parle de neurodiversité parce que, et je vais parler de l'autisme en particulier, on a souvent l'impression que les personnes autistes, seront asexuelles. Et que du coup, comme on a des difficultés à réguler nos sens, trop de contacts nous envoient automatiquement dans un meltdown, dans un shutdown. Alors qu'en fait, c'est encore une fois, il y a autant de personnes autistes qu'il y a d'autisme, où du coup, ben, il y a aussi des personnes qui sont hypersexuelles en fait avec l'autisme, parce que l'autisme ne veut pas dire juste essayer d'éviter toutes les sensations. Il y a aussi une partie des personnes autistes qui sont en recherche de sensations constantes, parce que l'autisme, ça veut dire qu'on va on va emmagasiner un peu plus d'informations sensorielles ou un peu moins qu'une personne neurotypique, en gros. Après, quand il s'agit de romance, il y a aussi l'idée que ben on est sans cœur, on n'a pas d'empathie. Donc ça, c'est un des préjugés qu'on entend tout le temps, on n'a pas d'empathie. Donc. Et du coup, c'est assez intéressant parce que moi, quand on me connaît, je suis la personne la plus empathe possible. J'ai une compassion sans nom, mais c'est une compassion. Et je fais souvent la distinction entre empathie et compassion parce qu'empathie, pour moi, c'est juste le fait de savoir que les autres personnes ressentent quelque chose, et la compassion, c'est savoir qu'une personne ressent quelque chose et décider de l'aider et de la faire se sentir mieux. Donc il y a vraiment cette idée d'action dans la compassion que moi je choisis d'expérimenter et de pratiquer autant que possible. Et du coup, bah, en fait, quand je suis en relation, on m'a souvent dit, les personnes avec lesquelles je suis, ah, mais comment tu peux anticiper mes besoins autant? Moi, on m'a souvent dit que j'allais finir seule pour ça, parce que ben je suis trop compliqué, parce que je suis trop intense, parce que je suis trop j'ai des besoins trop prononcés, parce que si ça. Et là, je reviens avec l'intersectionnalité en général. Et en fait, ce sont des préjugés et des clichés qui s'appliquent à toutes les parties de mon identité. Donc, en tant que personne raciste, en tant que personne algérienne, évidemment, je suis une personne en colère. Ben, en tant que personne queer, évidemment, je suis une personne égoïste. Évidemment, je suis une personne blablabla. Et donc, en fait, toutes les identités qui font mon identité à moi sont perçues de manière assez négative. Donc, en gros, on me l'a dit, mais vraiment, un million de fois, toi, tu finiras le seul. Ah, mais en plus, maintenant qu'on sait que t'es autiste, bah, it makes sense. Ça a du sens, parce que du coup, ben oui, t'es un peu plus intense que la moyenne. En fait, quand je vais prendre un exemple très concret de le sens qui me donne le plus de problèmes, c'est Louis. Donc, quand on est dans la rue et qu'il y a du bruit à n'en plus finir, qu'il y a des voitures qui passent, des gens qui crient, qu'on entend vraiment, on entend tout et tout, et moi, mon cerveau n'a pas la capacité d'isoler la conversation en face de moi. Je vais entendre tout au même niveau, et ça devient très, 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 très difficile, et ça me fait mal, en fait. Ça me fait mal. Et du coup, ben, évidemment, si je ressens ça tout au long de la journée, parce que j'évolue dans un monde où il y a des voitures de tous les côtés, j'évolue dans un monde où il y a des avions, j'évolue dans un monde où il y a du bruit tout le temps, il y a toujours des travaux dans les villes. Donc, évidemment, ça va être très difficile pour moi quand je suis en douleur constante tout au long de la journée, ben, de garder mon calme, entre guillemets. N'importe quelle personne sous une torture pareille perdrait son calme. Donc, évidemment, je vais apparaître plus intense, mais en fait, c'est juste une réaction à un stimuli qui, du coup, est beaucoup plus intense que pour la moyenne des gens.
Alors, Bachir, on croit souvent que les personnes en situation de handicap ne peuvent plus rien faire, ou du moins qu'il faut qu'elles se confinent entre elles dans des espaces spécialisés où elles feront des activités bien moins efficaces ou inintéressantes, en tout cas moins intéressantes que les personnes valides. On les prend en pitié. Comment, en tant qu'aveugle, on arrive à défier le regard d'autrui?
Parce qu'en fait, on impose un autre regard. Parce qu'en fait, quand j'ai perdu la vue, j'avais 18 ans, et puis petit à petit, j'ai appris en fait à combattre et à exister face au regard qui est basé sur la vue. Il faut mettre en valeur le regard profond. Le regard qui est lié au sentiment, le regard qui est lié à la réflexion, à tout ce qui est profondeur. Et dans la vie quotidienne, moi, je lis beaucoup de choses dans la voix des personnes. J'observe les gestes et paroles des personnes et j'ai un regard d'aveugle, à savoir, je vois les choses liés globalement. C'est-à-dire que je ne vois pas les choses séquentiellement. Le voyant avec sa vue, il voit à une chose, une deuxième chose, une troisième chose, une quatrième chose. Moi, je vois le tout et les liaisons qu'il y a entre le tout, entre les éléments ou les êtres, etc. Et c'est un avantage. Et donc, moi, je le mets en avant et je l'utilise au point de perturber la personne qui voit clair, mais volontairement, pour en fait ramener la personne à enlever son arrogance et à avoir une relation équitable et normale. Et bon, moi j'ai la chance d'avoir un caractère fort, j'ai aussi la chance de pratiquer les arts martiaux depuis très longtemps. Donc, pour moi, le combat, c'est naturel. Donc, vous pouvez m'amener n'importe où, en face n'importe qui. J'impose mon regard. Et la personne est obligée de me prendre à égalité. Non, mais c'est régulier. C'est-à-dire que vous avez les gens qui vous prennent de haut. Vous avez les gens qui sous-estiment systématiquement ce que vous venez de dire. Vous avez les gens qui ne vous laissent pas parler. Vous avez les gens qui vous disent « Ah non, non, ça c'est difficile pour vous ». Vous avez de tout, vous avez soit par la pitié ou la compassion, soit l'arrogance, c'est-à-dire la supériorité. Et moi, j'ai fait des études mathématiques pendant très longtemps à l'université, et donc j'ai une capacité d'analyse et de comprendre très très vite si la personne elle est honnête, si elle est loyale, si elle est... Parce qu'il y a des gens qui sont honnêtes et qui ont une certaine éthique, mais qui ne connaissent pas. Et même s'ils disent des erreurs, vous sentez qu'ils sont honnêtes, il n'y a pas de difficulté. Dans ce cas-là, je suis là pour leur expliquer. Mais les personnes qui sont arrogantes, je ne les laisse pas passer, en fait. Oui, je suis grand, costaud, donc j'impose, quoi, en fait. Et puis, voilà. Et non, on ne peut pas faire le malin.
Donc vous êtes non-voyant et vous êtes algérien d'origine. Est-ce que vous considérez que votre identité, c'est d'être aveugle et arabe ? Est-ce que, selon vous, on peut aussi imaginer rapprocher les discriminations subies par des personnes arabes des discriminations subies par des personnes en situation de handicap ?
L'identité pure et dure, elle n'existe pas en moi, en fait. Pour moi, mon identité, je suis un être humain. Après, par l'identité, par ma culture, je suis avant tout algérien. Et après, français. Et donc, même si j'ai vécu plus longtemps en France qu'en Algérie, parce que je suis arrivé en France, j'étais adolescent, mais le pays où vous êtes né, où vous avez grandi, ça vous marque. Donc, moi, je suis très, très fier d'être algérien, d'être français. Par exemple, le mot arabe, moi, j'ai un peu de mal avec ça, dans le sens où, pour moi, je parle l'arabe, parce que en Algérie, il y a des gens qui parlent arabe, il y a des gens qui parlent berbère. Ma grand-mère paternelle était berbère, donc elle parlait berbère. C'est ça. Et aujourd'hui, je suis en France, je parle français. Et donc, les langues, pour moi, ça ne détermine pas l'identité. Je ne mets pas trop d'appui sur l'identité, parce que c'est un concept dangereux qui mène rapidement au nationalisme. Et le nationalisme, c'est très très proche du fascisme. Donc moi, je suis plutôt universaliste, c'est-à-dire que pour moi, je suis chez moi partout dans le monde. Mais je suis vraiment ça, je le ressens. Hein. Je me sens pas étranger. Je me sens nulle part. Je sais pas, vers 16-17 ans, quand les gens me faisaient comprendre que j'étais étranger, je les agressais et je leur disais c'est vous les étrangers, c'est pas moi. Je crois à ça parce qu'on n'est pas à ça sur Terre. Donc on est propriétaire de rien en fait. Moi maintenant quand je fais de l'humour et je fais de l'humour d'aveugle, un humour qui est plutôt ironique, qui peut des fois faire mal. On subit plein de situations absurdes de discrimination, que ce soit dans la rue, dans les transports. Et puis, des fois, le regard compassionnel, etc. Donc, du coup, pour se défendre, on se fabrique une carapace d'ironie, d'humour noir. Et donc, c'est cet humour qui va dominer. Et des fois, je peux essayer de faire rire, mais en même temps, ça fait grincer les dents. Et puis, l'autre partie du très, très positif de la culture aveugle, c'est que Je vois comme un algorithme, en fait. C'est quand vous dessinez un algorithme, vous avez une dizaine de choses à faire et vous allez faire un schéma qui va lier tout ça. Ben, un aveugle, il voit comme un algorithme. Je vous donne un exemple. Quand je suis en réunion avec mes collègues et on est en train de discuter sur un dossier, donc c'est un projet. Donc ce dossier, il a, une trentaine d'éléments. En fait. Quand il parle du dossier, il parle de l'élément 1, après il traite l'élément 2, puis le 3, le 4, etc. Mais il ne traite jamais les liens entre ces éléments-là. Moi, je suis le seul à dire, tiens, entre l'élément 2 et l'élément 22, il va avoir un problème. Maintenant, ils reconnaissent ma qualité. Et quand ils ont un dossier vraiment complexe, ils m'invitent. En fait, dire quelqu'un, il est invalide, ou même le mot handicapé. Le mot handicapé, il ne sert à rien. En fait, il n'existe pas en réalité. Donc, on a des personnes qui ont certaines qualités, qui n'en ont pas d'autres. Je ne vois pas. Je ne peux pas conduire une voiture ou un bus. Mais il m'est arrivé plein de fois de guider les gens dans le métro. Il m'est arrivé de faire l'interprète pour les gens qui ne parlent pas anglais. Quand je suis sur un tatami, vous pouvez m'amener n'importe quel judoka qui voit clair, je ne suis pas handicapé. Voilà, donc la notion de handicap n'a aucun sens.
Alors en France, il va enfin y avoir une déconjugalisation de l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés. Ce sont 120 000 personnes handicapées vivant en couple qui verront, à partir du 1er octobre 2023, leur allocation augmenter de 350 € par mois en moyenne. Cette réforme favorisera l'autonomie des personnes handicapées qui bénéficieront d'une allocation individualisée sans dépendre du conjoint et de ses ressources. Mais l'absence d'accès aux transports en commun, le quota des 6% des personnes handicapées en entreprise qui est excessivement peu respecté, l'interdiction des assistantes sexuelles, tout ceci conserve le validisme d'État. Alors si vous me permettez l'expression, pourquoi la société reste aveugle aux droits des personnes en situation de handicap, qui, en fait, ont juste envie de circuler, vivre, travailler et aimer comme tout le monde?
Moi, je viens de publier un bouquin que j'ai intitulé « L'amnésie collective », qui traite en fait tous ces aspects, que ce soit l'accès à la culture, l'éducation, l'emploi, le sport, etc. Le problème en France, c'est que la mentalité n'a pas changé. La mentalité française a mis plusieurs siècles pour changer vis-à-vis de la femme, par exemple. Donc, quand on parle de handicap ou de personnes en situation de handicap, pendant très très longtemps, pendant des siècles, ces personnes étaient considérées comme des gens inférieurs, soutenus par la charité, qu'on n'arrive pas à sortir de là. Donc c'est une question vraiment de mentalité. J'ai intitulé le bouquin « L'amnésie collective ». Si je devais mettre des fautifs, c'est tout le monde. Parce qu'on accuse tout le temps les politiciens, mais on a les politiciens qu'on mérite. Est-ce que quand il y a des élections, est-ce qu'on exige d'un candidat ou d'un parti de mettre en fait la non-discrimination des personnes en situation de handicap dans ces programmes? On n'exige jamais rien. Il n'y a jamais de débat. Il y a même un débat qui est fallacieux, qui était « Ah, au fait, le handicap, ça demande un consensus. » Moi, je dis « Ça, c'est un pays de dictature, si on met le consensus. Ah non, mais si c'est le handicap, on ne va pas faire de la politique droite ou gauche. » Non, au contraire, moi, je dis que si on veut respecter les personnes en situation de handicap, il faut des programmes de droite, de gauche, du centre, etc. Parce qu'il faut qu'ils aient une situation de démocratie. En gros, en fait, la stigmatisation, elle est tellement irrationnelle qu'elle peut être dans cette rubrique-là, c'est-à-dire le racisme comme pour les Noirs aux États-Unis ou même les Noirs en Afrique du Nord. Ce type de racisme, il est irrationnel. C'est exactement ça. C'est un rejet même. Par exemple, vous pouvez voir une dame, une jeune femme avec son gamin changer de trottoir parce qu'il y a quelqu'un qui vient en fauteuil roulant ou en aveugle. Les enfants en situation de handicap vont vivre avec les autres enfants. Et là, on apprend à vivre ensemble. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de difficulté. Quand on apprend à vivre ensemble, ben, on s'apprivoise et puis on développe une culture commune. Là, ce n'est pas le cas. Jusqu'à maintenant, on a encore des établissements spécialisés, ghettoisés, qui sont généralement en dehors des villes. Voilà, donc la commissaire de l'ONU qui est venue en 2020 pour faire une enquête pour voir si la France applique la Convention internationale des droits des personnes handicapées ou pas, elle a fait un rapport qui dit que la France applique la ségrégation vis-à-vis de la population handicapée. Et c'est la commissaire de l'ONU qui le dit.
Alors vous êtes un homme grand, corpulent, un judoka émérite, mais on a souvent l'impression que la virilité d'un homme s'estompe avec le handicap. L'hétéropatriarcat agiste, raciste et validiste impose que le vieillard, l'homosexuel, le maigrichon, ou le gros, ou l'homme asiatique, ou l'homme handicapé, ou l'homme trans, fassent partie des hommes hors compétition, indésirables. Est-ce que vous vous sentez moins homme parce que non-voyant ?
Je comprends ce que vous dites, et c'est vrai en fait. Moi, je l'ai déjà constaté. Moi, ça ne me touche pas, ça ne me concerne pas. J'ai grandi à Oran, je pense que vous connaissez un peu la réputation. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Oran, c'est comme Naples, ou c'est des villes où... qui vous forge un caractère de bagarreur, qui on se laisse pas faire, on est révolutionnaire tout petit. Je pense que c'est une question de rapport de force. En fait, c'est-à-dire que pour moi, si on vous éduque à travailler le rapport de force, c'est-à-dire que en cas de besoin, vous vous laissez pas faire. Jamais vous allez vous sentir dévirilisé. Par contre, si vous n'êtes pas éduqué à ça, bah, le moindre truc, ça va vous toucher et du coup, vous pouvez vous sentir ça. C'est juste des sentiments, en fait. Hein. Ce n'est pas une réalité. Vous êtes en fauteuil roulant ou non-voyant, comme de toute façon, on vous stigmatise depuis des siècles, vous avez une image de quelqu'un négatif, inférieur, pour un homme, par exemple, auprès des femmes. Ça, c'est une réalité. C'est très, très difficile pour beaucoup de gens pour surmonter ça. Moi, personnellement, je l'ai subi, mais comme je vous dis, je suis oranais, donc je suis malin. Donc, du coup, j'ai inventé des stratagèmes. Par exemple, quand j'avais 18, 19, 20 ans, j'allais dans les boîtes de nuit, j'inventais des stratagèmes pour draguer. Alors, je ne pouvais pas draguer comme celui qui voit clair. Donc, à force de stratagèmes, d'expérience, etc., j'avais moins de difficultés.
Oui, je pense que là, il est intéressant que vous nous expliquiez quel est votre rapport au corps et aux autres sens. Est-ce qu'il vous renseigne sur votre capacité affective, émotionnelle, amoureuse même ?
Ah ben, c'est sûr, parce que quand on ne voit pas, on développe... des sens qui sont insoupçonnés en réalité. Bien sûr, on va être très attentif à la voix et on décrypte la voix, c'est-à-dire qu'on sent dans la voix quand la personne est sincère, pas sincère, triste, joyeuse. Et puis, il y a aussi une autre capacité, c'est la capacité de sentir par le corps. Le corps produit un champ magnétique, des ondes en fait, avec lesquelles, si vous les travaillez, vous pouvez capter. Ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être... Et puis, au fur et à mesure de développer ça, ça devient quelque chose qui devient extraordinaire. Ça devient une manière d'être. Vraiment, quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes avec la personne, quoi. Où il n'y a pas de retenue, etc. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est par rapport à la relation. Mais dans le sport, notamment dans le judo, c'est extraordinaire parce que comme c'est un sport de toucher, c'est-à-dire parce qu'on tient le kimono, c'est un contact complet, je ressens mieux le combattant en face de moi que lui par rapport à moi. Parce que si je fais une technique... n'importe quelle technique, mais si je prends la technique la plus la plus emblématique d'un point de vue rapidité. Si je fais une technique de balayage, moi, je n'ai pas besoin de regarder. Donc, j'ai une fraction de seconde avant lui. Alors que lui, quand il regarde, ses yeux le retardent. Le fait de ne pas voir, vous avez le sens du corps. C'est-à-dire que vous avez le sens du geste. Je vous dis, c'est quand on prend conscience qu'être aveugle, c'est aussi une qualité. Et là, on peut aller très, très loin dans le développement de la sensation. En fait, l'association qui peut être au niveau sportif ou au niveau sensuel, ou au niveau relationnel. Donc, la sensation, ça veut dire qu'en fait, c'est une manière de profiter de la vie au maximum.
Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Je parlais un jour au père d'un ami qui revenait d'une messe à l'église et on parlait des personnes en situation de handicap qui voulaient trouver l'amour. Et il m'a dit la chose suivante. Oui, ils ont droit à l'amour, bien sûr, mais bon, la sexualité, faut pas exagérer. Il faut se faire une raison, ce n'est plus pour eux. Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place ?
Bah déjà, lui rappeler que la sexualité, ça sert à se reproduire à la base. Donc est-ce qu'on parle de ça ? Ça voudrait dire qu'ils n'ont pas le droit de se reproduire ? Parce que c'est ça qui fait que c'est tellement compliqué d'envisager un sens à la sexualité des homosexuels dans la tête des gens, et surtout des religieux. Parce qu'à la base, ça sert à se reproduire, et nous, on ferait ça dans un autre but. Tu sais, moi, il y a un truc qui m'a vachement aidé, et dans mon métier de coach en développement personnel, et dans ma posture de personne qui évolue dans ma sexualité. Je te disais tout à l'heure qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le slip d'un mec paraplégique. Mais je pourrais te dire la même s'agissant d'un mec valide. Et ça, c'est hyper important parce que ça m'a énormément aidé. Tu n'imagines pas le nombre de mecs valides que j'ai vus en coaching et en développement personnel qui sont des top modèles avec des tubs au-dessus de la moyenne, en pleine forme, en pleine santé, qui ne peuvent plus bander parce que trop stressés, parce que trop fatigués, parce que trop drogués. Et là, je les regarde et je me dis, mais oh, ces mecs-là, on les verrait dans un catalogue, on les croiserait dans la rue, on se dirait, ah ouais, je veux leur vie. Mais on n'est pas dans leur slip.
Je pense que je l'aurais regardé, je lui aurais probablement juste souri et j'aurais tourné le dos. Parce que finalement, j'ai pas besoin de me justifier. Et j'ai vraiment maintenant décidé de concentrer mon énergie sur les personnes qui me donnent de l'énergie. Et les personnes qui ont des idées qui ne changeront pas, pourquoi est-ce que je vais utiliser mon peu d'énergie en tant que personne handicapée à essayer de les changer? J'ai moins d'énergie. Il y a toujours cette notion d'avarice. Tu veux avoir ce que tu peux pas avoir. Ben, moi, je suis juste une personne humaine et les personnes humaines, du coup, ont le désir de connecter, ont le besoin de connecter. On est des personnes sociales, donc un animal social, entre guillemets. Donc évidemment, moi, j'ai envie de connecter. Donc c'est mon cas à moi. Il y a beaucoup de personnes neurodiverses qui auront des pensées différentes. Mais moi, j'ai envie de connecter, que ce soit romantiquement, sexuellement, amicalement, et d'avoir des relations en général. C'est une des choses qui fait la vie, et on le voit en plus. Donc les personnes neurotypiques créent le monde, entre guillemets, et on le voit dans tous les médias qu'on consomme. S'il n'y a pas une histoire d'amour, le média fait un flop. Donc pourquoi nous, si c'est l'obsession du monde, pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas y avoir accès ?
Bah, je lui aurais dit, il faut aller en formation continue pour apprendre ce que c'est la sexualité et le lien avec l'amour. Parce que en réalité, en fait, il ne sait pas que, quelle que soit la personne, son lien à l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire, de fort, de magnifique, et puis qu'il lui donne aussi la possibilité d'explorer en fait un pays. La sexualité, c'est un pays qu'on découvre tous les jours. C'est illimité, c'est après selon le partenaire, la vie qu'on mène, etc. Mais on n'a pas le droit de dire à quelqu'un de se limiter. Ce sera moi, quelqu'un qui me parle comme ça, Je l'envoie balader et je dis, vous êtes un ignare. Non, mais ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune. Je devais avoir 26 ou 27 ans. Et puis un jour, dans une discussion, il y a une dame stupide, parce que comme j'ai parlé de mon fils, parce qui avait un an, et elle a posé la question, « Ah, mais vous avez des enfants ?»
Merci mille fois d'avoir répondu à mes questions.
Le plaisir est partagé, c'est toujours... Moi, le fait d'échanger comme ça me permet aussi de progresser.
Merci d'avoir écouté cet épisode inédit et hors série de Jeans Podcast. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou autre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte @jeans-podcast sur Instagram. Poursuivez votre écoute de Jeans avec tous les épisodes disponibles. Partagez autour de vous, car il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. À bientôt dans Jeans Podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.